Alors tout d'abord, je voulais remercier aussi les organisateurs de m'avoir invité, particulièrement Madame Prade et Monsieur Mariotti. Alors juste un mot, hein, parce que je sais que vous en avez parlé hier sur la loi HPST, qui est venue donner en 2009 un sens légal à la notion d'éducation thérapeutique du patient. Pour rappeler simplement, Claire Compagnon a été nommée inspectrice générale des affaires sociales en mars 2015, et elle dit bien que l'ETP, c'est une des meilleures offres pour aider et soutenir l'adhésion au traitement par les malades chroniques. Dans le cadre de la schizophrénie, la psychoéducation du patient est démontrée comme efficace si la psychoéducation des familles y est associée. Et c'est pour ça que je vais vous parler du programme ProFamille. Pourquoi est-ce qu'on intervient auprès des familles ? L'hypothèse, c'est qu'en raison d'un manque de familiarité avec le trouble et l'état de stress qui est entraîné par les comportements du patient, il existe fréquemment des réactions cognitives, émotionnelles, comportementales des proches du malade qui sont insuffisamment adaptées. Ce qui entraîne une majoration du stress pour le malade qui, du coup, est aidé moins efficacement. Et puis une majoration du sentiment d'impuissance des familles et une souffrance majorée de celle-ci. C'est important de savoir communiquer avec le malade parce qu'on sait que la schizophrénie, ça modifie les modalités de communication. La psychoéducation des familles dans le cas de la schizophrénie, c'est après le traitement médicamenteux l'intervention la plus efficace. On a une amplitude de l'effet sur la prévention de la rechute identique à celui du traitement médicamenteux et bénéficiant du plus haut niveau de preuve et d'une rentabilité économique avérée. Par contre, s'il n'y a pas de prise en charge adaptée des familles, cela représente une perte de chance pour les malades, aggrave les coûts de la santé en augmentant le nombre de réhospitalisations et en réduisant les chances d'autonomie. Des études montrent l'efficacité de programmes psychoéducatifs familiaux type ProFamille. Vous avez une efficacité à un an, en général avec une prise en charge classique du malade. Il y a une rechute entre 40 et 58%. Si vous ajoutez le programme ProFamille, vous avez une rechute de 6 à 12%. Et à 2 ans, vous avez encore un effet, puisque vous passez de 66 à 83% à 17 à 40% avec la prise en charge de la famille. On a donc un taux de rechute divisé par 4 à 1 an et divisé par 2 les années suivantes, lorsqu'il y a une prise en charge psychoéducative des familles. Donc, proposer un programme psychoéducatif, ça n'est pas juste une amélioration marginale des pratiques. La psychoéducation familiale, vous en avez peut-être entendu parler, mais qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un programme éducatif où on donne des informations, mais bien plus que des informations, parce qu'on sait que l'information seule, c'est peu efficace et qu'elle doit être accompagnée par des exercices d'entraînement, une guidance pour aider à gérer le malade et un soutien émotionnel. C'est transmettre un savoir-faire face à la maladie et un savoir-être face aux proches malades, avec l'utilisation de stratégies spécifiques de modification des comportements. Et on sait que la modification des comportements nécessite une action directe au niveau des comportements. On apprend à faire faire. Et puis, c'est aussi savoir gérer son propre stress, ce qui entraîne un soulagement du fardeau émotionnel et l'adaptation de projets de vie face aux pertes liées à la maladie. Donc le but de la démarche, c'est d'amener progressivement le patient et sa famille d'un sentiment d'impuissance, d'une position de passivité ou de révolte face à la maladie, vers une position de collaboration active à travers une vision réaliste de la maladie, des moyens d'y faire face au quotidien, des possibilités de traitement, des perspectives d'avenir, c'est-à-dire avoir des projets, des désirs, être motivé. Alors, le programme ProFamille, je vais vous expliquer ce que c'est. Simplement, pendant ces 2 jours, ce qui fait que je suis désolée, je ne suis pas très présente, nous avons le congrès du réseau ProFamille qui a eu lieu hier au ministère de la Santé, où nous étions plus de 300, et qui a lieu ce jour à l'hôpital Sainte-Anne, donc juste en face. ProFamille, c'est un programme qui nous vient du Canada, qui a été développé au Québec par le professeur Cormier et son équipe en 1987. Puis ce programme a été diffusé dans le monde francophone. Depuis 2003, il est diffusé par le docteur Odé Aroufak en France. Au départ, il y avait 5 équipes. Nous sommes actuellement à plus de 50 équipes en France, 80 dans le monde francophone. ProFamille, c'est 2 modules. Un premier module de 14 séances de 4 heures. Un deuxième module d'approfondissement, avec des séances à 3 mois, à 6 mois, à 1 an et à 2 ans. 4 séances sans les animateurs. Des révisions individuelles par correspondance tous les mois. C'est un programme de psychoéducation qui s'adresse aux familles, mais pas que les parents, aux frères et sœurs, aux grands-parents, aux conjoints. Il ne concerne pas le proche malade, même si ce qui se dit dans ProFamille peut être entendu par le malade. Les familles peuvent venir indépendamment de l'avis de leurs proches, indépendamment de l'équipe de soins, elles viennent pour elles. Ce sont des groupes fermés de 12 participants qui s'engagent à être présents à toutes les séances. Nous avons en moyenne plus de 95% de présence à toutes les séances. Dans ProFamille, on évalue. On ne se contente pas de la satisfaction des participants. On veut montrer qu'on est efficace. On évalue les pensées et les émotions dominantes et je vous parlerai tout à l'heure de l'importance de l'échelle CESD. On évalue les jugements, les croyances, l'anxiété, les connaissances des participants, connaissances de la maladie et du traitement, comment on peut communiquer de façon efficace et puis comment gérer, apprendre à gérer ses émotions. On évalue le savoir-faire et puis il y a aussi des malades qui sont, il y a des questionnaires pour les malades qui sont remplis au cours du temps. On évalue avant le programme, au début du programme, à mi-parcours et à la fin du programme. ProFamille, c'est un programme donc très structuré dans son contenu, dans la technique d'animation et qui nécessite une maîtrise technique de l'animation et un apprentissage spécifique de l'animation. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Sainte-Anne dans les ateliers que nous avons mis en place. On a des critères de certification sur les résultats à obtenir, par exemple d'améliorer la dépression des participants d'au moins 30%. D'après les études publiées au niveau international, l'efficacité sur l'évolution de la personne malade dépend de la durée de la prise en charge des familles par un programme psychoéducatif. On a montré que 2 à 3 ans, c'est la durée optimale pour un effet sur le retour au travail, l'évolution du malade, donc on est totalement dans la réhabilitation. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des 2 modules et que ça dure 2 ans. L'hypothèse, c'est que le dysfonctionnement individuel du parent du malade résulte d'une inadaptation au stress majeur que représente la maladie. Une inadaptation émotionnelle, comportementale ou cognitive qui est liée à un apprentissage inadéquat des moyens d'adaptation. Maman m'a un jour dit, quand on m'a donné le diagnostic, en fait c'est un tsunami qui est arrivé. Et moi, ben, je ne sais pas quoi faire face à un tsunami. On agit sur les cognitions, c'est-à-dire les connaissances et les croyances, sur les comportements, sur les émotions. On réduit la souffrance de la famille et on donne des techniques pour mieux aider le malade. Si on fait un parallèle sur le temps qui est utilisé dans d'autres thérapies, si on voit le traitement du cancer, on sait que la chimiothérapie, en général, c'est une séance toutes les 3 semaines sur 4 à 6 mois en moyenne, jusqu'à 8 séances. En traumato, vous avez des centres de rééducation spécialisés dans les soins intensifs de réadaptation du sportif avec de la rééducation durant 6 à 8 heures par jour, une durée moyenne de 60 jours, ce qui fait au moins 240 heures de rééducation. En psychiatrie, ma ProFamille, je vous ai montré, 14 séances durant le premier module, 1 à 4 séances durant le module 2, 4 séances durant le module 2, pardon, ça fait 72 heures. On consacre en moyenne 40 minutes par séance à chaque animateur, à chaque personne, on est 2 animateurs, 12 heures par participant sur l'ensemble du programme. Donc finalement, ProFamille, ça demande moins de temps que des programmes de soins qui sont proposés en cancéro ou en traumato. On a calculé que c'est un coût moyen par participant de 2500 euros, ce qui correspond en fait à 11 jours de formation. Juste simplement, c'est, si vous comparez par exemple aussi simplement à comment on fait pour apprendre à conduire, vous avez le code, vous avez de la pratique, 20 à 40 leçons. Et c'est sacrément plus difficile de savoir comment faire face à un proche atteint de schizophrénie que d'apprendre à conduire. Les familles sont donc condamnées à une double peine. Elles ont un enfant qui est atteint de schizophrénie, qui souffre de cette situation. Cette souffrance a des conséquences néfastes pour la famille et pour le malade. Plus de la moitié d'entre elles ont des répercussions dépressives qui vont augmenter leur risque de mortalité d'un facteur 2, qui va augmenter leurs problèmes somatiques. Le niveau d'émotion exprimé est considéré par certains auteurs comme le facteur prédictif de rechute le plus puissant après l'arrêt de la médication neuroleptique. Comment est-ce qu'on va mesurer ce niveau d'émotion exprimé? Eh bien, on utilise la CESD. Plus de 20 000 études utilisent cet outil dans des populations variées. On sait qu'un score élevé de dépression est prédictif de troubles somatiques, est corrélé à des traumatismes physiques, à une plus grande mortalité et à un déclin cognitif. Je vous montre simplement cette étude qui regroupe 2728 patients âgés de plus de 60 ans qui ont un contact avec les soins primaires, quels qu'ils soient. On a éliminé tout ce qui est pathologie vasculaire et on a un suivi sur ces ans. Alors, je suis désolée, normalement, il y avait une animation, elle n'a pas l'air de marcher. On regarde l'évolution des non-déprimés, c'est la courbe en bleu. L'évolution des personnes qui sont déprimées, c'est la courbe en rouge. C'est-à-dire, la courbe en rouge, c'est une CESD supérieure à 16. Et si on compare l'écart de mortalité entre les personnes qui sont non déprimées, c'est-à-dire la courbe bleue, et les personnes qui sont déprimées, c'est-à-dire la courbe rouge, on a un écart significatif. Ce qui veut dire que la mortalité est plus précoce quand la CESD est supérieure à 16. Et je vous ai dit tout à l'heure que la plupart des participants avait une CESD supérieure à 16. Je vous montrerai les chiffres tout à l'heure. Une méta-analyse sur 22 études comparant le taux de mortalité de 5400 personnes déprimées et de 99 000 personnes non déprimées montre un risque relatif de 1,8, c'est-à-dire à peu près deux fois plus élevé. Ce qui veut dire, si on ne s'occupe pas de ces familles, elles vont mourir plus tôt. Le risque de mortalité est presque doublé. En pratique, si vous regardez dans nos groupes pro-famille, on a fait une étude sur 404 participants, sur 14 centres. Vous voyez que la moitié a une CESD inférieure à 16, donc pas de difficulté. Mais la moitié, la CESD, est supérieure à 16, ce qui annonce un décès prématuré quelques années plus tard, ce qui veut dire qu'elles ne pourront plus aider leurs proches. Là, vous avez des schémas qui vous montrent comment on agit dans ProFamille. Donc, quand on évalue la CESD, donc à gauche, vous avez tous les centres ProFamille. Et on a mis de côté Roufac, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez au départ l'évaluation. Là, je vous ai dit, on évalue au début, en cours de parcours et à la fin. Ce qui est en vert, c'est une CESD inférieure à 16. À gauche, c'est avant le programme. À droite, c'est après le programme. Donc, sur tous les centres, vous voyez que de faire le programme ProFamille, ça a une influence positive, statistiquement significative, d'avoir fait le programme sur la CESD, donc l'amélioration de la dépression. Roufac a des résultats supérieurs, mais dans les deux cas, les résultats sont significatifs. Roufac a des résultats supérieurs parce que ce sont des équipes super entraînées, ce sont les premiers à avoir mis ProFamille en place en France. Et on est plus efficace quand on a l'habitude. Je vous rappelle que donc on a vu que les malades vont être moins réhospitalisés et les familles vont aller mieux. Elles vont donc pouvoir être présentes plus longtemps et pouvoir aider leurs proches. Je vous présente un modèle d'organisation. Une organisation en cluster. C'est un souhait du réseau ProFamille international pour une décentralisation de la gestion régionale du réseau dans les grandes régions. En Île-de-France, vous avez un bassin de population d'à peu près 12 millions d'habitants, ce qui veut dire à peu près 12 000 personnes atteintes, 1200 nouveaux cas par an. L'offre doit être donc nécessairement non sectorisée parce qu'on a vu qu'il fallait des équipes entraînées, donc qui ont une pratique régulière. Et la taille idéale d'un bassin de recrutement pour une pratique régulière, c'est 1 million d'habitants. Vous avez ainsi la possibilité de coordonner les équipes, d'offrir un choix plus large, un choix de lieu, un choix de jour, un choix d'horaire, une meilleure visibilité pour les familles et pour les professionnels. On est plus fort si on mutualise nos ressources. On peut mutualiser notre communication, on ne se fait pas de concurrence. Et pour recruter de nouvelles équipes, c'est plus facile parce qu'elles peuvent venir en observateurs. Malgré tout ça, il y a un paradoxe. On a vu tous ces résultats préliminaires qui objectivent une réduction du nombre de jours d'hospitalisation des malades dans l'année qui suit le programme par rapport à l'année précédente. On objective une amélioration de l'humeur des familles. La psychoéducation est économiquement rentable par le baisse des coûts qu'elle induit, donc il n'y a pas d'excuse au soi-disant manque de moyens. Et pourtant, la psychoéducation est encore marginale en France. Il y a un problème de l'offre. Souvent, il n'y a pas de ligne budgétaire spécifique pour ce type de programme, alors qu'il existe des moyens pour des activités d'efficacité plus limitées. Je vous ai montré tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, je suis désolée, j'ai oublié, que le programme a été validé par l'ARS au niveau de la CHT, validé sans aide financière. Il y a le problème du recrutement des familles. Elles sont encore trop rarement informées du diagnostic. Vous avez en général 7 nouveaux cas par an sur un secteur, ce qui veut dire que si le médecin est convaincant, s'il sait que ProFamille existe, vous aurez les familles de 4 à 5 patients, soit à peu près 6 personnes. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait 12 personnes pour faire un groupe. D'où l'importance de ne pas rester au niveau du secteur. Et je redis bien, c'est si le diagnostic est donné, si le médecin sait que ProFamille existe, s'il est convaincant pour que les familles participent. Une étude qui a été faite par Claudine Clément, qui est cadre de santé en Alsace, sur les hôpitaux du Haut-Rhin, a montré qu'alors que le programme est diffusé depuis 2003, seuls 5% des familles étaient orientées. Il faut donc que l'orientation des familles vers un programme psychoéducatif par le psychiatre devienne une règle. La conception de l'offre psychoéducative des familles sur le modèle du secteur condamne les familles à ne pas se voir offrir de programmes efficaces, avec des conséquences pour les familles qui sont la mortalité et pour les patients qui sont la rechute et une moindre réhabilitation. D'où la nécessité, pour que des raisons liées à l'éthique du soin, qu'à côté du secteur, il existe aussi des dispositifs très largement transsectoriels, comme pour la psychoéducation des familles. Les équipes du cluster, nous avons Clermont de l'Oise, l'AMGEN à Rueil-Malmaison, Maison-Blanche, Sainte-Anne, Henriet, Louis-Maurier, qui va bientôt démarrer en janvier et qui s'est formé l'année dernière. Nous aurions besoin de 12 équipes pour répondre à la demande, puisque nous avons pour l'instant 12 à 18 mois d'attente. Alors, est-ce que la psychoéducation des familles apporte quelque chose de durable ? Oui, l'amélioration du patient et de sa famille, avec une réduction des coûts. Mais s'il n'y a l'absence de psychoéducation apporte quelque chose de durable aussi, c'est le décès prématuré des familles. Moins la psychiatrie a de moyens, plus les familles prennent le relais par défaut. Plus les familles prennent le relais, plus il est urgent de les former avec des programmes efficaces. Si une famille ne peut pas bénéficier d'un programme psychoéducatif validé de durée suffisamment longue, c'est une perte de chance pour le malade, un surcoût en soins pour le malade, une souffrance majorée pour la famille, un surcoût en soins pour la famille et un risque médico-légal pour les établissements. Voici une proposition. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Quelques réactions. Je serais tenté d'interpeller Madame Richard. Elle s'y attendait, qui est là pour l'INAFAM. Je ne sais pas, ce n'est pas obligé non plus, hein.
Tout d'abord, je vous remercie pour ces deux interventions qui, moi, m'ont particulièrement intéressée. Alors, bon, en ce qui concerne le programme Pro Famille, c'est vrai que le pourcentage de familles qui bénéficient de ces programmes sont extrêmement réduits, de 5%. Sans doute aussi parce que ces programmes sont longs, même si, quand vous les comparez avec les programmes dans le cadre de... Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pris comme exemple, le cancer ou bien je ne sais plus, qui sont des programmes effectivement peut-être encore plus longs, mais je crois que ça c'est quand même un des problèmes. Alors je trouve que On relie aussi cette difficulté des familles au fait que ce que vous ressentez, hein, simplement 5% des familles sont orientées vers un programme, eh bien nous, dans les pourcentages que l'on a, on n'a même pas 5% non plus des familles qui sont orientées vers des associations de pères aidants. Et je crois qu'on a intérêt à se soutenir mutuellement. C'est-à-dire que, enfin, sur l'Isère, c'est vrai qu'on a l'avantage de vraiment être assez bien participant dans ces programmes pro-famille. Et nous, quand des familles sont orientées vers l'association Una Femme, c'est vrai qu'on les soutient à commencer et à aller dans les programmes de psychoéducation. Donc je crois que c'est vrai que c'est un travail commun. Et c'est un travail commun dans lequel, je pense, l'ensemble des soignants est concerné. Et je voudrais dire que plus les soignants auront de la bienveillance vis-à-vis des familles, moins les familles vont être traumatisées, plus elles vont écouter ce que vous dites. Et n'hésitez pas à les renvoyer vers les associations pour que les associations aident dans cette démarche vers la psychoéducation. Voilà.
Je vous remercie. Je voulais juste préciser que je travaille bien évidemment avec l'UNAFAM, Schizoï en Ile-de-France, et qu'il y a une association Promesse qui s'est créée en décembre 2014, qui regroupe les anciens participants de ProFamille, parce qu'ils ont voulu nous aider à diffuser le programme. Pour l'instant, en fait, c'est plutôt les anciens qui ont fait le programme ProFamille qui donnent l'information au monde médical. C'est plutôt dans ce sens que ça marche. Mais bien sûr, il faut se soutenir, c'est évident.
La question que j'aurais envie de poser, c'est pourquoi est-ce que l'UNAFAM n'est pas elle-même promotrice de ce genre de programme, ce qui nécessiterait évidemment quelques dotations pour ça, mais pourquoi pas ?
Alors l'idée, c'était que ce soit des professionnels qui animent, parce que c'est très exigeant, vous avez vu, au niveau de l'animation, oui. De la formation, oui, des animateurs et du temps. Mais on peut trouver des accords, c'est évident que c'est vers ça qu'on
l'UNAFAM
va évoluer.
L'UNAFAM peut recruter aussi des professionnels. Enfin, moi, il y a des
anciens, financement.
Des anciens médecins de mon établissement qui ont été pendant quelques temps bénévoles, où il peut y avoir aussi des dotations. La RS Rhône-Alpes a créé quelques postes au profit d'une UNAFAM.
Merci, monsieur Marescu. Ouais.
Il y a des endroits en France où c'est l'UNAFAM qui anime, hein, faute de professionnels.
Non, alors je crois que bon, l'UNAFAM est une association de parents et familles, d'amis, de personnes qui sont en souffrance psychique. C'est vrai que nous avons d'autres programmes, hein, qui sont des programmes certainement bon, que l'on a montés, nous, dont le programme Prospect, qui sont des programmes qui sont parfois la première marche, hein, des familles qui prennent conscience effectivement de leurs difficultés, qui prennent conscience de combien la maladie les a modifiés et qui, à partir de là, vont reconstruire et acquérir aussi, vont faire aussi ce chemin d'acquisition de connaissances. Donc c'est vrai que les deux programmes ne s'opposent pas. Je pense que ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui vont profiter des programmes. Donc je crois qu'il est important néanmoins d'inclure effectivement les associations de famille dans les programmes pro-famille. Donc sur l'Isère, on a eu, c'est vrai qu'on s'est... On a bougé un peu parce que pour faire ce lien, hein, c'est-à-dire il est important qu'il y ait du lien et quel que soit finalement le programme. Les familles qui sont allées à ProFamille sont j'ai envie de dire que ça correspond quand même pas à toutes les familles. Hein, vous êtes d'accord avec moi ?
Je suis d'accord avec vous. On a montré que ça correspond globalement quand même à 60% des familles, pas 5% par contre.
Non.
Voilà,
ah oui,
mais
oui,
pas toutes les familles, bien sûr. L'idée, c'est que ce soit les familles qui choisissent et qu'elles aient le choix.
Oui. Jean-Yves Landel, directeur de PSM de Caen. La question que moi je poserais à l'UNAFAM, c'est j'observe sur Caen, par exemple, qu'il y a deux établissements qui font de la santé mentale. Il y a un programme pro-famille au CHU, il n'y en a pas dans mon établissement. On est en train d'élaborer le projet médical. J'ai associé les représentants des usagers qui siègent au conseil de surveillance. je regrette qu'à aucun moment donné, ils aient interpellé la communauté médicale de mon établissement sur l'absence de programme pro-famille dans mon établissement. Et la question de fond qui est posée, me semble-t-il, je pense que, parce qu'on tourne autour du pot, la question a été posée d'une certaine manière par mon collègue François Courteau hier matin, c'est la vraie question, c'est les médecins. Pourquoi est-ce que les médecins ne font pas, ne proposent pas, n'engagent pas, n'invitent pas les patients dans des programmes de psychoéducation? Pourquoi ils n'invitent pas les familles, voilà, à s'engager ou à solliciter ce type de d'activité? Voilà, pour moi, enfin, il me semble que c'est une espèce de non-dit qu'on a depuis hier. C'est vous regrettez qu'il y ait 5% des familles qui bénéficient de ce type de programme. Mais pourquoi les médecins, pourquoi la majorité de nos psychiatres se désintéressent de ce type d'activité? Et voilà. Et je poserai la question au psychiatre qui est intervenu sur la question. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, sur Sainte-Anne, combien, sur l'ensemble des pôles, combien y a-t-il de dispositifs de ce type? Combien y a-t-il de pôles qui sont engagés dans ce type de dispositif? Et comment, petit à petit, si vous réussissez, comment et par quels moyens vous faites en sorte que de plus en plus de pôles au sein de Sainte-Anne mettent en œuvre ce type de programme?
Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les familles qui viennent d'elles-mêmes, pas forcément envoyées par les professionnels, les psychiatres. Mais sur Sainte-Anne, il y a évidemment de plus en plus de psychiatres qui sont engagés et impliqués, puisque nous avons eu la chance de pouvoir faire des journées au niveau de la CHT ou d'ETP, où j'ai présenté plusieurs fois le programme. Donc vraiment, sur Sainte-Anne, j'ai un soutien évident.
Moi, je voulais juste signaler qu'il y a du travail qui se fait avec les familles, aussi pas forcément par pro-famille, mais il y a les thérapies familiales, ça existe. Il y a de l'ethnopsie, ça existe aussi. Il y a aussi des groupes de parole famille soignants qui se font régulièrement et où l'UNAFAM est invitée et participe. Donc voilà, il y a des choses qui se font et pas seulement sur pro-famille, quoi. Il y a d'autres... d'autres initiatives.
Moi, j'aurais une question à poser à Madame Amado. Vous avez parlé de relations avec la MDPH, etc. Et
oui.
Je voulais savoir, est-ce que vous travaillez aussi avec les CRP, les centres de rééducation professionnelle, qui, après reconnaissance de travailleurs handicapés par la MDPH, effectivement, peuvent proposer des formations pour une réinsertion en milieu normal? Parce que dans la région Nord-Pas-de-Calais, on a la chance d'avoir un CRP qui a initié fin 2007 une unité dédiée aux patients porteurs d'un handicap psychique, une unité de préorientation, hein, séparée de la et qui ensuite, si vous voulez, avec un accompagnement, donc on est accompagné par le PSM de l'agglomération lilloise, Lille Métropole et la clinique privée Lautréamont, et ce qui permet, on a fait un bilan, si vous voulez, à peu près à 6 ans, et ce qui a permis quand même la réinsertion en milieu normal et de façon pérenne de 33% des patients qui étaient pas enfin, des patients, non, là, des personnes reconnues travailleurs handicapés qui étaient passées par cette préau dédiée handicap psy.
En fait, on travaille avec toutes les structures qui nous adressent les patients. Donc, on a commencé par les structures dont on avait le plus l'habitude, qui étaient les hôpitaux de jour autour de chez nous, les ESAT. Puis, maintenant, on travaille de plus en plus avec les SAVS et les SAMSA. La MDPH, on a rencontré et on est en lien régulier avec la MDPH Paris, ce qui nous facilite beaucoup la tâche parce qu'ils accélèrent les circuits, le retour des dossiers quand ils savent qu'on envoie une évaluation neuropsychologique et qu'ils savent qu'on peut interagir. Donc pour eux, c'est beaucoup plus simple. On doit maintenant continuer notre parcours en fait, sur Paris. Et c'est pour ça qu'on a monté cette idée de réseau entre les structures de soins et les structures médico-sociales.
Oui, c'est pour ça. Moi le CRP était bien en aval, si vous voulez. Hein. Parce qu'en amont, effectivement, il y avait les secteurs aux cliniques privées qui adressaient. Il y a effectivement tout un travail qui a été fait par le CRP avec la MDPH pour accélérer de telle sorte que ça se fait très, très rapidement, disons, en 2 à 3 semaines au grand maximum, la personne, à partir du moment où le dossier est complet, etc., a son orientation travailleur handicapé et vers la formation professionnelle, de telle sorte. Et il y a aussi branché un SAMSA pour accompagner les personnes dans ce CRP, puisque là, on est dans un milieu avec Bon, il y a un médecin, certes, responsable, mais on est avec des menuisiers, des informaticiens, des travailleurs sur bois, etc. Quoi.
On a deux structures avec lesquelles on travaille un peu plus sur Paris. L'une, c'est le Centre Alexandre Dumas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de patients, soit qui viennent du centre, soit que nous nous adressons dans ce centre quand le projet n'est pas encore suffisamment mûr. Le centre André Léveillé aussi, mais lui il va bientôt fermer, donc on est en train justement de voir qui pourrait être nos interlocuteurs, parce qu'une seule structure c'est assez peu sur Paris.
Enfin, ce qui m'avait beaucoup fait plaisir, je voudrais dire, c'est quand même 33% de réinsertion en milieu normal à 2 ans, c'était quand même un plus quoi. Bon, outre le fait que dans notre société, bon, le travail c'est aussi un mode d'insertion.